nous allons parler de japonais et de martyrs japonais, mais d'une façon assez particulière, et c'est pour réfléchir sur le problème du martyr. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Pourquoi réfléchir sur les martyrs? C'est que dans les premiers siècles, d'abord, les martyrs ont été à la base du témoignage de foi le plus convaincant, le plus sûr. Et la plupart des martyrs étaient canonisés, et même, dit-on, que les premiers papes, qui n'ont pas tous été martyrs, ont été déclarés martyrs afin de leur donner plus de crédit, si on peut dire. Il faut pas s'en faire avec ça, c'est pas un drame, mais il y a des choses pendant, disons, les 1000 premières années de notre Église qui relèvent d'une époque où la légende, comme on dit, la légende dorée, où on agrémentait les vies afin de les rendre plus intéressantes. Hein. C'était pas par mauvaise volonté. C'était une façon de répandre la bonne nouvelle et d'amener les gens à mieux croire à Jésus-Christ. C'était dans le but de sauver les âmes. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait, n'est-ce pas, pour sauver les âmes? Même aujourd'hui on appelle ça des petits mensonges, mais ce sont pas vraiment des mensonges, ce sont des agréments, disons, des fleurs. Alors, nous avons des récits extrêmement authentiques de martyrs aujourd'hui, et parmi ceux qui me touchent le plus, c'est ceux qui ont été racontés par un écrivain japonais dont je vous ai déjà parlé, Shusaku Endo. Il suffit de se souvenir de son nom de famille, E-N-D-O, accent circonflexe, Endo. Monsieur Endo n'est pas n'importe qui. Il est considéré par certains comme le plus grand écrivain japonais de l'heure, bien que catholique, hein, dans un pays où les catholiques sont réduits à un très faible pourcentage. Dans ce grand pays, Endo est acclamé, interviewé, apprécié. Il est né à Tokyo en 1923. Et il a fait une partie de ses études en France. Il parle d'ailleurs fort bien le français. Je devais l'interviewer, l'inviter à l'émission Rencontre à la télévision de Radio-Canada il y a une dizaine d'années, et malheureusement les choses n'ont pas pu se faire parce que lorsqu'il venait en France, nous n'y étions pas, et vice-versa, il ne passait pas par Montréal. Il aurait fallu faire un voyage spécial au Japon pour l'interviewer, ce qui était un peu invraisemblable. Donc, il est né en 1923, il a fait une partie de ses études en France, il a été couronné par les plus grands prix littéraires au Japon. Oui, les plus grands prix littéraires au Japon. Son œuvre a été traduite en 21 langues et davantage, je crois qu'ils sont rendus à 30-35 langues. D'ailleurs, son œuvre était pour Graham Greene, le grand écrivain, Graham Greene, grand écrivain catholique, dont les préoccupations sont assez semblables à celles de Endo. Eh bien, l'œuvre était pour Graham Greene, l'œuvre de Endo était une des plus importantes de notre temps. Alors, dans son livre, il a publié plusieurs ouvrages, Monsieur Endo. Il a publié en particulier « Douleurs exquises », dont je vous ai déjà glissé un mot, ce sont des nouvelles. Et aujourd'hui, nous allons en parcourir une. Elle est traduite du japonais par Catherine Ancelot. C'est publié chez De Noël. C'est paru en 1991. Et puis... ce sont de brèves nouvelles, fort bien rédigées et très émouvantes. Celle-ci s'appelle Unzen. U-N-Z-E-N. C'est l'endroit où s'est déroulé ce martyr bouleversant. C'est un très beau texte que Unzen, qui va nous permettre de comprendre la grandeur des saints martyrs. Et c'est d'une façon très spéciale qui nous le fait connaître. C'est l'histoire d'un touriste catholique japonais d'aujourd'hui, qui s'appelle Nose, N-O-S-E, accent aigu, Nose. Ça s'écrit comme ça se prononce, quoi. Ce touriste catholique japonais visite les lieux du martyr de sept catholiques qui furent tués le 5 décembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1631, il fut martyrisé plutôt le 5 décembre, je crois qu'ils sont morts un peu plus tard, 1631 au Japon, n'est-ce pas, à Unzen. C'est une vallée qui pue le soufre. C'est une vallée où jaillissent des jets d'eau brûlantes, extrêmement brûlantes. Et Nozé, qui est en autocar, se rend là pour comprendre ce qui fait les martyrs et les saints. Parmi ces martyrs, j'ai trouvé dans un autre livre de ma bibliothèque, l'Église du Japon, des temps féodaux à nos jours, paru il y a très nombreuses années, celui-là. Je ne crois pas qu'on puisse le trouver, c'est paru en 1958. C'est de Jean Monsterlet, M-O-N-S-T-E-R-L-E-E-T, qui est publié à l'Apostolat de la prière à Toulouse. C'est un livre fascinant que j'ai dévoré, qui a plus de 200 pages sur l'Église du Japon, du temps féodaux à nos jours. Et à la page 118, j'ai retracé que celui qui a martyrisé ces pauvres chrétiens avait eu recours aux tortures qui avaient déjà causé l'apostasie de nombreux chrétiens, dit le texte ici. Il fit conduire à Unzen, U-N-Z-E-N, à Unzen, comme le Zen que l'on pratique chez les shintoïstes au Japon. À Unzen, les cinq missionnaires et deux métis, Béatrice da Costa, qui était un mélange de portugaise, j'imagine, et de japonaise, et sa fille Maria da Silva, âgée de 18 ans, qui ont été martyrisés avec les autres. Il y avait là le père François de Jésus, qui a décrit les eaux bouillantes dont je viens de vous parler, qui alimentent à présent des endroits où les touristes vont pour se guérir de diverses maladies et qu'on appelle des spas. On ne peut voir sans tressaillir quand on pense aux martyrs. On ne peut regarder ça sans tressaillir. C'est ce qu'a fait Endo dans la personne de Nozé. Il se donne au fond le nom de Nozé, N-O-S, accent aigu. Il raconte l'histoire de Nozé. Je vous lis le texte d'Endo. En buvant une petite bouteille de lait dans l'autocar à destination d'Unzen, Nozé contemplait la mer sur laquelle la pluie tombait. Elle était juste en contrebas de la route, et ses vagues froides déferlaient mollement. L'autocar n'avait pas encore démarré. L'heure du départ était largement passée, mais comme la correspondance de Nagasaki n'arrivait pas, le chauffeur bavardait avec la jeune fille chargée de faire le guide, sans manifester la moindre velléité de mettre le moteur en marche. Les passagers étaient patients, et sans se plaindre, ils collaient leur visage contre les vitres. Il se trouvait un peu bête d'avoir fait le voyage pour venir dans cette banale bourgade à l'extrémité ouest de Kyushu. Kyushu, c'est une des îles, des îles du Japon. En fait, vivant à Tokyo, il n'avait jamais imaginé qu'Obama, avec ses nombreux martyrs chrétiens et ses habitants qui avaient pris part à la révolte de Shimabara, serait une ville aussi ordinaire. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que la révolte de Shimabara. C'est la révolte des paysans chrétiens qui a éclaté durant l'hiver 1637-1638 dans la presqu'île justement de Shimabara et aussi dans l'île d'Amakusa où de nombreux chrétiens ont été tués. Je reviens donc au texte. Au fur et à mesure de ses recherches sur l'histoire des premiers chrétiens japonais, Nozé, c'est-à-dire notre auteur Endo au fond, hein, Nozé avait découvert que nombre d'entre eux étaient partis d'Obama pour monter à Unzen. Car Jigokudani, la vallée de l'enfer, se trouvait dans ces montagnes, dont un jésuite d'alors avait dit qu'elles étaient parmi les plus hautes du Japon. La vallée de l'enfer était un lieu de prédilection des tortionnaires. À partir de l'an 6 de l'ère Kanhai, c'est-à-dire 1629, le préfet de Nagasaki, Takenada Shigetsugu, avait décidé d'y torturer aussi les chrétiens de sa ville, et certains jours, c'était quelque 60 ou 70 condamnés attachés en rang d'oignons que l'on menait dans la montagne en passant par Obama. Rien dans cette ville où les touristes flânaient et où des haut-parleurs déversaient des airs à la mode ne gardait la marque de cette histoire sanglante. Pourtant, 3 siècles auparavant, un jour de janvier comme celui-ci, dans la bruine, l'homme dont Nausée voulait suivre la trace était parti d'Obama pour gravir la montagne. L'autocar, qui avait enfin démarré, traversait la ville. Des auberges à la japonaise, d'un ou deux étages, se suivirent un moment, on voyait des hommes qui appuyaient des deux mains sur la balustrade regardaient passer l'autocar. Puis ces auberges disparurent pour faire place des deux côtés de la route à des fermes entourées de vieux murs de pierre avec des toits de chaume comme écrasés. Nausée ignorait si les fermes et leurs murs de pierre existaient déjà à l'époque. Il ne savait pas plus si c'était bien le chemin qu'avait gravi cet homme, les croyants et les sbires. Les sbires, ce sont les soldats, n'est-ce pas? Mais, sans doute, de temps en temps, la troupe s'arrêtait pour regarder la montagne d'Unzen enveloppée de nuages que Nausée voyait en ce moment. Il regrettait amèrement de ne pas avoir pris parmi les livres qu'il avait emportés de Tokyo les lettres des jésuites dans lesquelles ceux-ci faisaient leur rapport à Rome sur les martyrs d'Unzen. Il en était d'autant plus mécontent que parmi les livres jetés dans sa valise se trouvaient les confessions chrétiennes de Collado dont il n'avait pas besoin. Dans l'autocar, au fur et à mesure que l'on grimpait vers la montagne, il s'était mis à faire frais. Les passagers épluchaient des mandarines achetées à Obama tout en écoutant d'un air morne les explications que la guide donnait de temps en temps d'une voix chantante. « Et maintenant, voulez-vous bien regarder avec attention ?» disait-elle en plaquant un sourire sur son visage. « Sur cette colline, là où nous allons bientôt tourner, se dressent 2 grands pins. On dit qu'arrivés devant eux, les chrétiens se retournaient pour voir une dernière fois le village d'Obama. On leur en a donné plus tard le nom de « Pin du dernier regard ». Le livre qu'il avait en main, « Les confessions chrétiennes », avait été imprimé en 1632 à Rome. Elle précédait de 5 ans le début de la révolte de Shimabara. Et même si la répression à l'encontre des chrétiens se faisait déjà féroce, les missionnaires portugais et italiens parvenaient encore à pénétrer au Japon à partir de Macao ou de Manille. Ce recueil avait été composé pour servir de manuel de japonais aux missionnaires. Nausée ne comprenait pas bien pourquoi le père Collado avait publié ses confessions de fidèles japonais, alors qu'un prêtre catholique ne doit en aucun cas trahir les secrets qu'un croyant lui a confiés. Mais, le soir où il avait parcouru ce livre, il avait eu le sentiment que ses textes le touchaient plus que toutes les histoires de chrétiens qu'il avait lues jusque-là, car les autres ouvrages relataient avec force louange les actes des prêtres, des croyants et des martyrs qui brûlaient de foi. C'était l'histoire de personnages qui, sans céder ni aux supplices ni aux tortures, avaient préservé leurs convictions et leurs croyances. Moi, je serais bien incapable d'en faire autant. Voilà ce que Nausée soupirait toujours. Il avait été baptisé dans son enfance avec toute la famille. Et en somme, voyez-vous, le personnage de Nausée, qui est l'auteur Endo, est aussi chacun d'entre nous, ou en tout cas c'est moi. On se demande comment on aurait fait, nous, devant de tels martyrs. Hein. Et vous allez voir comme le récit est beau, parce qu'on peut s'identifier non seulement à Nosée, mais à un personnage qu'il va retrouver dans les confessions chrétiennes de Collado, un personnage qui a refusé le martyr, mais qui est demeuré catholique. Combien je me retrouve là-dedans. Je continue donc ce texte. Malgré maints détours et errances, il avait vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, qui était désormais le sien, sans abandonner la religion. Mais si Nosée n'avait pas régné, ce n'était pas le fait d'une volonté ou d'une foi inébranlable. Au contraire, il était bien placé pour savoir à quel point il était mou, lâche et faible. Il se disait qu'un fossé infranchissable le séparait de ses fidèles, qui, persécutés, étaient morts dans un glorieux martyr à Nagasaki, Edo ou Hunzen. Comment faisait-il pour être tous aussi forts? Dans l'histoire des chrétiens japonais, Nosée avait longtemps cherché une âme sœur, mais aucun de ces héros dont on racontait la vie ne lui ressemblait. Seul un homme que, sans en révéler le nom, le père Collado évoquait dans ses confessions chrétiennes, avait pénétré le cœur de Nosée, car, comme lui, cet homme n'avait qu'une faible volonté et une fidélité défaillante. Ah, combien on se reconnaît, hein? Alors qu'il tournait distraitement les pages de ce livre acquis chez un bouquiniste, Nosée s'était pris à imaginer la silhouette de ce personnage qui, 300 ans plus tôt, s'était prosterné devant le prêtre, partagé entre le dégoût et le plaisir de mettre sa laideur à nu. Et voici donc le passage où cet homme se raconte. Comme j'ai vécu très longtemps avec les Zensho, pour ne pas que l'aubergiste ou mes voisins découvrent que j'étais chrétien, je me suis... C'est un personnage, n'est-ce pas, qui date de 300 ans qui parle, je vous le rappelle. Comme j'ai vécu très longtemps avec les Zensho, pour ne pas que l'aubergiste ou mes voisins découvrent que j'étais chrétien, je me suis joint à eux pour aller à leur temple et j'ai comme eux récité leurs prières. En outre, lorsqu'ils me vantaient les vertus de leur Dieu, j'ai commis souvent la grave faute d'opiner, d'abonder dans leur sens. Je ne saurais dire combien de fois je l'ai fait, 20 ou 30, au moins 20. Un autre jour que j'étais parmi les Zensho et les apostats, c'est-à-dire ceux qui ont renié leur foi chrétienne, leur foi catholique, alors qu'ils bafouaient les chrétiens, insultaient notre Dieu, je n'ai rien fait pour les arrêter. Je suis resté quoi? Ça nous arrive. Une autre fois encore, continue-t-il, lorsque le shogun... Un shogun, c'est un chef japonais, n'est-ce pas? Un seigneur. Lorsque le shogun a mis notre religion hors la loi, et que les fonctionnaires du préfet sont venus pour forcer tous les chrétiens à signer leur reniement, du moins pour la forme, ma bouche a prononcé les paroles exigées pour sauver ma vie, celle de ma femme et de mes enfants. Alors c'est la fin du témoignage de cet apostat, dans lequel on peut se reconnaître, moi du moins. Et Nosée ne savait où l'homme était né, ni de quoi il avait l'air. Quelque chose lui faisait supposer que ce personnage appartenait à la classe des guerriers, mais aucun indice ne disait de quel seigneur il était le vassal. L'homme n'avait certainement jamais imaginé que ses confessions au père Collado seraient imprimées, qu'elles reviendraient au Japon et seraient lues par quelqu'un comme lui. S'il ne pouvait se représenter ses traits, Nosée avait le sentiment de deviner ses mimiques. Lui-même, s'il avait vécu à cette époque, n'aurait eu aucun scrupule à suivre les bouddhistes au temple pour cacher qu'il était chrétien. Si quelqu'un avait insulté sa foi, il aurait baissé les yeux et fait semblant de ne rien entendre. Mon Dieu, comme on fait ça, presque tous. On insulte notre foi partout, à la télévision, partout. Et quand est-ce que nous protestons? Quand est-ce que nous faisons quelque chose? Jamais. Et si on lui avait enjoint de... je continue le texte de ce grand écrivain japonais, M. Endo. Et si on lui avait enjoint de renier, il l'aurait fait. Peut-être même par écrit, pour sauver sa propre vie, celle de sa femme et de ses enfants. Une très faible lumière apparut au sommet des montagnes d'Unzen, jusque-là recouverte par les nuages. Il se dit que le temps allait peut-être se lever. Sur cette route goudronnée, que les voitures des touristes devaient sillonner en été, il n'y avait que l'autocar qui grimpait avec de temps en temps un bruit haletant. Des bosquets d'arbres dégarnis s'étendaient tristement. Au milieu, il y avait des rangées de bungalows, silencieuses et vides, leurs volets de bois fermés et mouillés par la pluie. Le martyr, ce n'est rien d'autre qu'une forme de vanité, tu sais. Il entendait cette conversation qui se déroulait dans le coin d'un bar de Shinjuku. Sur la table salie par du saké renversé cuisait une fondue. Attablé devant, un écrivain, plus âgé que Nausée, critiquait le héros du roman que Nausée venait d'écrire. Il s'était inspiré des martyrs chrétiens du début de l'ère Meiji. Son compagnon expliquait qu'il était incapable de prendre le martyr pour argent comptant. Il déclarait « Ceux qui veulent mourir en martyr, en fin de compte, ils sont mus par la vanité. » Et l'autre de dire « Oui ». Il doit y avoir une part de vanité et puis le désir de devenir un héros, mais il n'osait, ne dit rien, tripota sa coupe de saké. Tu sais, si on voit les choses comme ça, on peut trouver de la vanité et de l'héroïsme dans n'importe quel geste de bonne volonté, dans n'importe quelle action. Je répète cette phrase que Endo met dans la bouche de Nausée, ce touriste catholique. Tu sais, si on voit les choses comme ça, on peut trouver de la vanité et de l'héroïsme dans n'importe quel geste de bonne volonté, dans n'importe quelle action. C'est une des tentations que l'on a. Souvent, on critique les gens qui font de très belles choses pour les rabaisser. Pour les rabaisser, oui. Je continue donc le texte. Nausée, qui écrivait des romans depuis 10 ans, avait pris en grippe la littérature moderne, qui se complaît à trouver orgueil et autosatisfaction dans tous les actes des hommes. Avec cette façon d'envisager les êtres humains, ne laissait-on pas échapper quelque chose d'essentiel? Et sur la route qui montait vers le sommet, en serpentant entre les herbes sèches et les bosquets dénudés, un groupe d'hommes, en randonnion, avait autrefois marché. Il y a 300 ans, il y avait chez eux de la vanité et de la folie, mais aussi quelque chose d'autre. Pense, par exemple, à l'extrême droite pendant la guerre. Au Japon, elle était animée d'une sorte d'esprit de martyr. Dans cette façon de s'enivrer, je sens quelque chose d'impur. Ça doit être une réaction typique de ceux qui ont connu la guerre. L'autre avait bu une gorgée de saké refroidi et s'était mis à rire. Conscient du décalage irrémédiable qui les séparait, Nausée n'avait pu que lui adresser un sourire résigné. Et bientôt, on aperçut une fumée blanche, comme de la vapeur, qui montait des flancs de la montagne. Même avec les vitres baissées, on sentait un léger parfum de soufre. À l'endroit d'où montait la fumée, on distinguait clairement des rochers et du sable d'une couleur laiteuse. « Est-ce la vallée de l'enfer ?»« Non, » dit la guide en secouant la tête. « C'est un peu plus loin, à Jigokudani. » La masse des nuages s'était déchirée pour laisser apparaître un tout petit coin de ciel bleu. L'autocar, qui jusque-là grimpait la côte en haletant, avec force grincement du moteur, reprit soudain son souffle et gagna de la vitesse. Car la route s'était faite plate, puis avait commencé à descendre. Il y avait désormais des flèches indiquant Jikokudani, accrochées aux arbres, sans doute pour ceux qui faisaient l'ascension à pied. Et apparurent aussi les trois rouges des chalets. Nausée ignorait si l'autocar des confessions de Colado était venu dans cette vallée. Pas si l'autocar, pardon.
N'osait ignorer si l'auteur des confessions, Collado, était venu dans cette vallée. J'ai la misère à me relire. Mais la silhouette d'un autre personnage, se superposant au premier, lui apparaissait maintenant, marchant, le dos courbé, la tête basse. La scène se passe le 5 décembre 1631, il y a 364 ans, lorsque 7 prêtres et croyants sont torturés à Jikokudani. L'homme a pour nom Kishijiro. C'est lui le témoin, l'apostat. Il est venu voir le sort que vont subir les prêtres qui jusque-là se sont occupés de lui, de son âme. Lui-même a depuis longtemps renié la foi catholique. C'est pourquoi il peut se mêler à la foule des curieux, se mettant sur la pointe des pieds pour voir quel châtiment cruel les sbires vont infliger à leurs prisonniers. Cristóvão Ferreira, dont on dit que par la suite il a plié sous la torture, a laissé une tache dans l'histoire des chrétiens japonais, a envoyé dans son pays un rapport sur ce qui s'est passé alors. Le 2 décembre, les 7 croyants sont arrivés en fin de journée au port d'Obama, puis on leur a fait subir, gravir la montagne. Là, il y avait plusieurs petites huttes, on les a enfermés dans l'une d'elles pour la nuit, les mains et les pieds enchaînés, et c'est ainsi qu'ils ont attendu le jour du 5 décembre. Et nous continuons maintenant avec le récit qu'a écrit ce grand écrivain japonais, M. Endo, E-N-D-O, dans son livre « Douleurs exquises » paru chez De Noël, en 1991. Le 5 décembre, la torture a commencé de la façon suivante. Les 7 prisonniers ont été amenés, un à un, au bord d'un étang bouillonnant. On leur a montré les jets de vapeur brûlantes qui s'en élevaient et on leur a ordonné de renier leur foi. L'air était froid. De l'eau bouillante jaillissait de l'étang. Sans l'aide de Dieu, il y avait de quoi perdre connaissance devant une vision aussi épouvantable. Tous se sont écriés qu'on n'avait qu'à les soumettre à la torture, qu'ils ne renieraient pas leur foi. Alors les sbires ont dévêtu les prisonniers, leur ont lié les mains et les pieds, et se sont mis à 4 pour maintenir chacun d'eux. Et avec une mesure d'une demi-pinte, ils ont puisé de l'eau bouillante et ont arrosé lentement chacun des fidèles de 3 mesures. Dans le récit qui nous est rapporté de façon historique et qui est publié dans l'Église du Japon, cet ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Jean Monsterlet, on dit que les martyrs étaient étendus sur des pierres rondes pour subir ce martyre. Il y avait parmi les prisonniers une jeune fille du nom de Maria, qui, défaillant de douleur, s'est effondrée sur le sol. Durant leurs 33 jours de captivité, les prisonniers ont subi ce supplice à 6 reprises. L'autocar s'arrêta. Lorsque Nausée descendit, après tous les autres, l'odeur de pourriture dans l'air froid et vif de la montagne lui piqua le nez. Portée par le vent, de la vapeur blanche montait de la vallée, entourée par les arbres. Sur le bord de la route, des femmes et des hommes se tenaient un peu partout, plantés sous des inscriptions maladroites où on disait « eux durs ». Elles apostrophaient les passants, pour vendre évidemment des œufs durs. Nausée et les autres voyageurs passèrent entre ces gens et se dirigèrent vers la vallée. Le sol couvert par les arbustes était blanchâtre, de cette couleur que l'on voit lorsqu'on incise la peau pour faire apparaître la chair. La vapeur continuait de flotter, venant des bosquets, pour apporter avec elle cette odeur de pourriture. Un étroit chemin serpentait entre les sources chaudes qui bouillonnaient. Certaines étaient calmes, comme une nappe de ciment blanc et épais. D'autres crachaient de petites bulles inquiétantes. Sur les buttes formées par les dépôts de soufre, il y avait de ci de là des pains brûlés de marques rouges. Comme des fourmis, les passagers du car de nausée avançaient en rang, avalant les œufs durs qu'ils sortaient des sacs en papier. « Viens voir, il y a un petit oiseau qui est mort. »« Ah, c'est vrai, il a dû étouffer à cause des gaz. » Que Kishijiro avait vu les tortures subies par les autres. Pourquoi était-il venu? Impossible de deviner s'il était là au même titre que les autres bouddhistes, ou pour sauver les croyants qui subissaient le châtiment des autorités. La seule chose que l'on savait de lui était qu'il avait juré devant les fonctionnaires d'abandonner sa religion pour que sa femme et ses enfants aient la vie sauve, comme il disait. Mais pourquoi alors avait-il marché de Nagasaki jusqu'à Obama à la suite des 7 croyants? Pourquoi avait-il grimpé dans le froid jusqu'à Hunzen? Nausée pouvait se représenter l'expression qu'avait eue alors Kishijiro. Caché derrière les curieux, épiant d'un regard craintif de chien battu ses anciens compagnons, puis détournant les yeux de honte. Noé se disait que cette nausée, plutôt se disait que cette expression-là était la sienne. Voilà où on voit que nausée, ou endo, s'identifie à ce Kishijiro. C'est ce que nous devrions presque tous faire. Et je continue donc la lecture. Nausée se disait que cette expression-là était la sienne, ou du moins qu'il serait incapable de garder la tête haute, alors que les mains liées dans le dos, il se trouverait au bord d'un étang, laissant échapper une écume menaçante. Les alentours se firent tout blancs. Une vapeur encore plus épaisse se mit à flotter et des gaz malodorants envahirent l'atmosphère. Nul doute que les chrétiens aient été torturés ici. Dans les déchirures de la vapeur mouvante, comme du brouillard, se dessinait la forme noire d'une croix. Se couvrant la bouche de son mouchoir, Nausée s'approcha et regarda ses pieds. De l'eau brûlante d'un blanc trouble bouillonnait avec des jets d'écume. Comme il y avait nulle part ailleurs que l'on pouvait se tenir debout, c'était certainement ici que les chrétiens avaient été conduits. Et Kishijiro, bien en écart, oui, il devait être ou se trouvait accroupi comme apeuré un enfant qui n'avait pas voulu aller plus loin, et sa mère avait regardé la scène avec les curieux. Avait-il dit en lui-même « Pardonnez-moi, Seigneur. » Si Nausée s'était trouvé à sa place, il n'aurait sans doute rien pu faire d'autre que de répéter « Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Pardonnez-moi, je ne suis pas assez fort pour mourir comme vous en martyr. » Rien que d'imaginer ces affreuses tortures et déjà mon cœur s'arrête de battre. Bien sûr, Kishijiro avait des excuses. S'il avait vécu à une époque de liberté de conscience, il n'aurait jamais renié. Bien sûr, il se serait alors sans doute conduit, sans peut-être devenir un saint, mais il aurait été fidèle à sa foi, comme un croyant ordinaire. Or, malheureusement, il avait vécu un âge de persécution, et par peur, il avait abjuré. Tous les hommes ne peuvent être des saints et des martyrs. Mais faut-il que ceux qui n'ont pu choisir ni la sainteté ni le martyr soient marqués à vie du sceau de la traîtrise? Peut-être est-ce ainsi que Kishijiro plaidait silencieusement sa cause face à ses croyants qui le condamnaient. Mais malgré ce raisonnement, il souffrait en lui-même. Il haïssait sa propre faiblesse. Nausée se rappelait ces quelques mots qu'il avait lus dans les confessions de Colaro. « Ceux qui ont failli connaissent une douleur que vous ne pouvez imaginer, la douleur de la chute. » Malgré les 300 ans qui avaient passé, cette plainte, comme celle d'un oiseau blessé, parvenait aux oreilles de Nausée. Les mots de cette simple ligne qui figurait dans les confessions chrétiennes de Colado s'étaient fichés dans son cœur comme une lame acérée. Kishijiro avait dû aussi les crier en silence en voyant ses anciens amis soumis à la torture dans les montagnes d'Unzen. Nozé reprit l'autocar. Le voyage d'Unzen à Shimijibara prenait à peine une heure. Il y avait enfin une pointe de clarté dans le ciel, mais il faisait toujours aussi froid. Le guide continuait à afficher son sourire forcé et à donner des explications d'une voix chantonnante. Comme Nozé qui descendait maintenant la montagne, les sept croyants d'il y a 300 ans, qui n'avaient pas plié sous la torture, avaient dû aller vers Shimabara. Il avait l'impression de les voir, poussés dans le dos par les sbires, traînant leurs pieds brûlés par l'eau bouillante, s'agrippant à une canne. À une certaine distance, Kishijiro les suivait craintivement. Lorsqu'à bout de force ils s'arrêtaient, Kishijiro les imitait et s'immobilisait loin derrière eux comme surpris. Afin de ne pas éveiller les soupçons des fonctionnaires, il se précipitait tel un lapin dans les fourrés, s'accroupissait, puis se relevant quand la troupe se remettait en marche. On aurait dit une femme abandonnée qui continue malgré tout à suivre son homme d'un pas hésitant. Des flancs de la montagne, on voyait une mer noire. Des nuages laiteux s'étendaient au-dessus d'elle comme pour l'envelopper. À travers eux, de pâles rayons de lumière brillaient sur l'eau. Que la mer doit être bleue quand il fait beau, se dit Nozé. Vous voyez au loin cette île qui fait comme une tache. Aujourd'hui, malheureusement, on ne la distingue pas très bien. C'est sur cette île que, lors de la révolte de Shimabara, le chef des chrétiens, Amakusa Shiro, a préparé le soulèvement avec ses compagnons. C'est pourquoi on l'appelle Dangojima, l'île des complots. À ces paroles de la guide, les passagers tournèrent un regard sans curiosité vers l'île. Mais bientôt, un bosquet masqua la mer. Nozé se demanda à quoi pensaient les sept croyants en la voyant. Il savait qu'il serait bientôt exécuté à Shimabara. À l'époque, les corps des martyrs étaient immédiatement brûlés et on dispersait leurs cendres dans les flots de la mer. Car, sinon, leurs habits et même leurs cheveux étaient transformés par les autres chrétiens en reliques. Les sept croyants, c'est-à-dire les sept martyrs, avaient dû se dire, lorsqu'ils avaient vu la mer au loin, que ce serait là leur tombeau. Kishijiro l'avait, lui aussi, contemplé, mais en éprouvant une autre forme de tristesse, il avait dû songer que, même dans le monde de la foi, il y avait des forts et des faibles. Que les premiers avaient droit aux honneurs, alors que les seconds devaient, leur vie durant, porter le fardeau de leur infériorité. Arrivés à Shimabara, les prisonniers avaient été enfermés dans une geôle. La cellule n'avait que 3 pieds de hauteur. Un unique tatami était posé sur le sol. 4 d'entre eux y furent jetés, les 3 autres furent placés dans un lieu tout aussi exigu. En attendant leur exécution, ils n'arrêtèrent pas de s'encourager les uns les autres et de prier. En revanche, on ne sait dans quel coin de Shimabara se trouvait Kishijiro pendant ce temps. L'autocar de Nozé s'était arrêté devant le quai du petit port où était amarré un unique et vieux bateau, celui qui allait à Amakusa. Sur les vaguelettes qui cognaient la digue flottaient des débris de bois et des saletés. La ville s'étendait le long de la mer. Les murs de bâtisses qui devaient être des usines se suivaient à perte de vue. Une odeur de produits chimiques venait jusque dans la rue. Nozé marcha en direction du château de Shimabara, qui avait été reconstruit. Il ne croisa sur sa route que 3 lycéens à bicyclette. Où se trouve l'endroit où ont été exécutés les chrétiens? Et les filles rougirent. J'en ai jamais entendu parler. Tu connais ça, toi? Non, hein? Et elles secouèrent la tête d'un air perplexe.
Il arriva dans un quartier où s'élevaient les anciennes demeures des guerriers du fief. C'était à l'arrière du château, un coin quadrillé de ruelles entre lesquelles se dressaient de vieux murs de terre. Le nombre de chrétiens exécutés à Shimabara était assez élevé, mais Nosé n'avait pas encore lu les documents historiques indiquant où se trouvait leur geôle. Il rebroussa chemin et arriva au bout d'un moment dans une rue commerçante, où des haut-parleurs diffusaient une chanson à la mode. La route était étroite, mais il y avait pourtant toutes sortes de boutiques, même des marchands de souvenirs. L'eau qui coulait dans les rigoles était très pure, comme celle d'un torrent. « Le lieu du supplice, s'il vous plaît. » « Oui, je sais où c'est. » Et le patron d'un tabac lui expliqua qu'il arriverait bientôt à un étang, qu'il devrait continuer tout droit et tomberait sur une école maternelle. Les traces du lieu d'exécution étaient juste à côté. Les documents indiquent que la veille de l'exécution, Kishijiro, il y a 300 ans, est venu voir les 7 prisonniers sans préciser comment il s'y était pris. Il avait sans doute soudoyé les sbires. Lorsqu'il tendit quelques maigres provisions aux malheureux, usés par la torture, l'un d'entre eux lui avait dit avec pitié, « Oh, Kishijiro, vous vous êtes rétracté !» Se rétracter voulait dire revenir sur son reniement de la foi catholique et déclarer aux autorités qu'on ne pouvait pas abandonner sa foi. Vous vous êtes rétracté et vous êtes venu nous voir? Kishijiro leva craintivement les yeux et secoua la tête. En tout cas, nous ne pouvons pas accepter cette nourriture. Mais pourquoi? Vous vous demandez pourquoi? Dirent les prisonniers avec tristesse. Parce que nous sommes déjà prêts à mourir. Kishijiro n'avait rien à répondre. Il ne pouvait que se taire les yeux baissés. Il savait qu'il aurait été incapable d'endurer la torture à laquelle il avait assisté dans la vallée de l'enfer. « Mais est-ce qu'il faut en supporter autant, murmura-t-il comme en pleurant, pour aller au paradis? Est-ce que Dieu abandonne les gens comme moi? » Suivant les indications du marchand, Nosé traversa la rue commerçante et arriva à l'étang. Le courant était arrêté par une écluse et l'eau disparaissait sous terre pour aller s'écouler dans les rigoles de la ville. Nosé lut un écriteau qui expliquait que c'était grâce à cet étang que l'eau des rigoles de Shimabara était si pure. Il entendit des voix d'enfants qui jouaient. Dans la cour de l'école maternelle, dont lui avait parlé le patron du tabac, 4 ou 5 écoliers jouaient au ballon. Le soleil couchant jetait une faible lumière sur la balançoire et le bac de sable. Passant derrière une haie de rosiers dénudés, il arriva sur les traces du lieu d'exécution, désormais un simple bosquet décharné. Il s'agissait d'un vulgaire terrain vague de quelques 200 mètres carrés, avec des fourrés brunâtres et des pins qui poussaient parmi les amas de détritus. Si Nosé avait fait le voyage de Tokyo, c'était parce qu'il voulait voir de ses yeux cet endroit, ou plutôt parce qu'il voulait mieux comprendre les sentiments de Kishijiro qui, là encore, était venu rendre visite aux martyrs. Le lendemain matin, les 7 prisonniers, il y a 300 ans, avaient été ligotés sur des chevaux sans selle et traînés à travers la ville. Voici d'ailleurs le texte du père Collado dans les Confessions chrétiennes. Ensuite, les martyrs arrivèrent au lieu du supplice, entourés d'une palissade de bambou. On les descendit des chevaux et on les fit mettre contre des poteaux, distant entre eux de 3 mètres. Au pied de ces poteaux, les bûchers étaient déjà construits. Au-dessus, on avait fixé des toits de paille mouillés d'eau de mer. C'était pour éviter que le feu ne prenne trop vite et que les martyrs succombent sans souffrir. On les attacha avec une corde au poteau, en les serrant le moins possible pour qu'ils puissent, jusqu'au dernier moment, bouger et crier qu'ils reniaient leur foi catholique, écrit un témoin de l'époque. Juste au moment où on mit le feu au bûcher, un homme courut vers les poteaux sans que les sbires puissent le retenir. Il cria quelque chose, mais ses paroles furent couvertes par le crépitement du bois qui brûlait. D'ailleurs, les flammes et la fumée étaient si denses qu'elles empêchaient l'homme de s'approcher davantage des condamnés. Les fonctionnaires l'attrapèrent prestement et lui demandèrent s'il était lui aussi chrétien. Alors l'homme tomba en arrêt comme pris de peur et murmura qu'il n'était pas chrétien, qu'il n'avait rien à voir avec ces gens-là, que son esprit avait été troublé par ce spectacle. Et il s'en alla sans demander son reste. Mais on le vit derrière la foule des curieux joindre les mains en prière et répéter « Oh, pardonnez-moi, je vous en supplie. » Jusqu'à ce que le feu couvre les poteaux, les sept martyrs chantèrent. Malgré le cruel supplice qu'ils subissaient, leur voix était pleine de gaieté. Bientôt, ils se turent d'un seul coup, et on n'entendit plus que le bruit sourd du bois qui brûlait. L'homme disparut, la tête basse. Tous les spectateurs chuchotaient qu'il devait s'agir d'un chrétien. Nausée s'aperçut qu'au beau milieu du terrain, il y avait un endroit où affleurait de la terre noire. Des pierres brûlées y étaient à demi ensevelies. Comment savoir si elles avaient servi 300 ans plus tôt pour brûler vifs les sept croyants? Il en ramassa une d'un geste furtif et la mit dans sa poche. Puis, comme Kishijiro, il repartit vers la route, le dos courbé. C'est aussi aujourd'hui la fête de Saint Sabas, un abbé qui est mort en 532. C'est un saint très réputé dans l'Église autrefois, que je me plairai à vous faire connaître l'an prochain à même date. C'est aussi la fête d'un religieux salésien, le bienheureux Philippe Rinaldi, qui est né le 28 mai 1856. En Italie, jeune élève chez les Salésiens italiens, vous savez qu'il y a des Salésiens à Montréal et à Sherbrooke et un peu partout, c'est un ordre extrêmement important fondé par Saint Jean Bosco, dont je vous ai déjà parlé. Donc, il était élève chez les Salésiens italiens, il s'est sauvé un jour du collège. Puis, en 1877, il avait, mon Dieu, 22 ans. Mais il a repris alors ses études, s'est préparé à franchir les étapes qui le mènent au sacerdoce. Il a été ordonné prêtre 5 ans plus tard. Et puis, il est devenu directeur de l'œuvre des vocations tardives. Et imaginez, envoyé en Espagne en 1889, on l'a retrouvé supérieur provincial. Il a fondé en Espagne 19 maisons de Salésiens. Vicaire général de la congrégation salésienne pendant 20 ans, il a été élu supérieur général en 1922. Il est devenu ainsi le troisième successeur de Saint Jean Bosco, Don Bosco, n'est-ce pas, la tête des Salésiens. Comme quoi on peut sauver d'un collège et devenir un saint. Sous son gouvernement qui dura 9 ans, le nombre des maisons salésiennes s'est accru de 250, c'est fantastique, et celui des Salésiens s'est augmenté de 4000. Quelle congrégation admirable à travers le monde, malheureusement peu connue chez nous. Signalons la création aussi d'un institut séculier, les volontaires de Don Bosco, qui a été reconnu dans l'Église officiellement en 1978. C'est sa fête aujourd'hui, le 5 décembre, le bienheureux Philippe Rinaldi. Et dans l'Église primitive, on célébrait aussi les actes de Crispine. C'était, oh mon Dieu, c'est survenu en l'an 304. C'est un procès, comme je vous en ai déjà lu, où la foi s'affiche de façon admirable. Je pourrais vous lire ça une autre année. Enfin, je vous signale que vous avez entendu brièvement, trop brièvement, des extraits d'un très beau disque qui s'appelle L'Art sacré de Josquin Després. Eh bien, vous pouvez vous le procurer ici à Radio Ville-Marie. Le numéro de téléphone de Radio Ville-Marie, je vous le rappelle, est toujours le même, 382-3913. Pour vous en souvenir, vous écoutez 91,3, hein, mais ce sont les trois derniers chiffres de notre numéro de téléphone, 91,3, mais vous mettez devant 3823-3823-913. Et alors, vous demandez l'art sacré de Josquin Després. Ce sont de très beaux chants, très anciens, magnifiques, Josquin Després.